Ok, donc c'est une présentation qui vous rappellera un peu les objectifs de l'enquête et comment on peut utiliser les données. Puis il y aura aussi une partie un peu plus, on va dire, didactique, de retour d'expérience sur comment on enquête des Wikipédiens dans Wikipédia. Donc j'ai fait un transparent avec pas mal de liens. Donc j'imagine que Pierre-Yves, il sera possible aussi de partager cette présentation. De mettre quelque part pour que vous retrouviez les liens si besoin. Alors, ce que je disais, c'est que aussi, si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas. Vu que c'est un café, normalement, on boit du café puis on discute. Même si c'est le grand café, on peut soit poser des questions dans le chat, soit bon, directement si vous avez des questions. Alors, si je fais ça, normalement, ça va avancer. Voilà. Donc, Marsouin, c'est un groupement d'intérêts scientifiques. C'est quelque chose qu'on a en Bretagne qui essaye depuis une vingtaine d'années de suivre les usages du numérique en général. Marsouin, ça veut dire moulin armequin de recherche sur les sociétés, les usages et les sociétés, les usages d'Internet. Et en gros, c'était l'idée de mieux comprendre comment les gens utilisaient Internet et comment ça changeait Internet. Alors, quand je dis les gens, ça peut être aussi les entreprises, les administrations. Donc, on a une spécialité d'interroger, de questionner et de faire des questionnaires plutôt quantitatifs, en ligne ou par téléphone, peu importe, mais pour demander aux gens les usages. Et personnellement, ça fait quelque temps que je travaille aussi sur Wikipédia. Donc l'idée qu'on avait, c'était toujours, hein, c'est de mieux comprendre les grands principes de ce système sociotechnique qui produit de l'information ou de la connaissance. C'est-à-dire, c'est un des groupes ou des gens qui ensemble travaillent pour produire des choses et qui le font dans le cadre d'un objet qui est le wiki, bien sûr. Mais aussi l'ensemble des outils qui sont derrière les wikis, les bots, les IRC, enfin tout un ensemble d'outils, et puis des groupes qui discutent à différents niveaux de tous ces outils-là. Plus tout ce qu'il y a autour. Alors là, je ne parlerai que de Wikipédia, mais évidemment, il y a d'autres, tout le monde le sait, il y a d'autres projets de la Wikimedia Foundation, qui est un acteur important, j'y reviendrai aussi. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui nous intéressent. Et l'idée, c'est que derrière, on veut faire une enquête, on a quand même un cadre théorique. Je pense que c'est important quand on fait des enquêtes quantitatives. On ne va pas à la pêche d'informations n'importe comment. On essaie vraiment on a des idées, on a des théories. Évidemment, si on sait tout par avance, ça ne sert à rien de faire l'enquête. Mais notre but, c'est quand même de mieux comprendre des choses. Et donc, nous, on analyse Wikipédia comme ce qu'on appelle un commun numérique de production. Je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire. Et on s'intéresse aussi aux deux grandes populations, et ça fait partie des communs de Wikipédia, qui sont les lecteurs et les contributeurs. Pour nous, ce n'est pas les mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas. Quand on est contributeur, on est souvent un lecteur. Mais on peut être un gros contributeur et un petit lecteur. Mais aussi, beaucoup ne sont que lecteurs. Et ce n'est pas parce qu'on est lecteur qu'on va devenir contributeur. C'est quand même deux choses différentes, mais qui utilisent le même objet et évidemment qui interagissent. Et c'est ça qui nous intéressait. Alors, pourquoi enquêter? Bon, parce que ça fait des belles publies quand on est chercheur. Mais pourquoi ça fait des belles publies finalement? Qu'est-ce que Wikipédia a de si particulier? Alors ça, j'ai repris quelques transparents que j'avais fait pour un séminaire qu'on avait fait à Avignon. D'abord, Wikipédia, c'est quelque chose qui est toujours, hein, depuis 2005 à peu près, critiqué comme il y a des choses qui ne vont pas dans Wikipédia. Voilà, c'est un enfer pour les femmes, par exemple. Il y a eu d'autres choses aussi. Des scandales qui apparaissent souvent. Voilà, un président de l'UPR qui, d'après un site, hein, de l'Esprit Sorcier, qui était dit, voilà, cette personne-là n'a pas ses pages sur Wikipédia. Vous pouvez regarder, il l'a maintenant, mais à l'époque, il ne l'avait pas forcément. Et en quoi c'est un scandale? Finalement, est-ce que tout le monde doit avoir sa page sur Wikipédia ou quels sont les critères? Alors ça, c'était aussi quelque chose qui a fait un peu l'actualité. Donc, un cofondateur de Wikipédia qui dit qu'il n'a pas confiance dans l'encyclopédie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir confiance? Qu'est-ce qu'il propose? Est-ce que le fait qu'il propose un projet concurrent aujourd'hui influe sur son analyse de Wikipédia? Voilà, on y trouve les informations qu'on veut bien nous donner. Ouais, c'est un peu le principe quand même. Et puis, toujours pareil, est-ce que c'est un problème? Finalement, pourquoi c'est un problème? Donc, on peut résumer ça en disant, est-ce qu'il faut être sur Wikipédia aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on a le droit d'être sur Wikipédia? On voit bien que ce site-là, au-delà de ce qui nous intéresse plus sur comment il fonctionne, c'est aussi un site qui agrège un certain nombre d'attentes, de critiques, et des critiques qui sont souvent externes. Hein, c'est des critiques sociales sur ce projet-là, qui font que ce projet doit y répondre. Alors pourquoi l'analyse, pourquoi ce projet est si critiqué finalement et doit y répondre? Alors c'est en partie de la faute du projet lui-même, je dirais, hein, si faute il doit y avoir, parce que il y a dans le projet de création d'encyclopédie, alors j'ai mis un accent sur Wikipédia quelquefois, n'y voyez pas une réduction Wikipédia français, c'est juste que j'écrivais en français, mais ce projet il a une certaine ambition universelle. Qui date de l'encyclopédie. C'est l'idée, c'est on va mettre l'ensemble des connaissances qui existent sur la surface de la Terre. Hein. C'était ça l'idée de l'encyclopédie Diderot, qui n'est pas la première, mais qui est celle qui a été la mieux formalisée. Et grâce à ça, eh bien, le monde en gros sera meilleur. Hein. Un homme instruit est un homme plus libre, est un homme qui est plus à même aussi de participer à la civilisation humaine et à la communauté ou à la société. Et ça rejoint aussi des questions de sciences ouvertes, d'idées que grâce à Internet, enfin, après, eh bien, on va pouvoir donner accès pour la première fois à une représentation globale de la connaissance humaine. Alors, c'est exactement ce que disaient aussi les gens de l'encyclopédie. Hein. Grâce au livre, on va pouvoir donner accès à l'ensemble de la représentation de la connaissance humaine. Et l'idée derrière, c'est à tout le monde. Bon, après, évidemment, il y a un effet d'échelle qui fait qu'on est arrivé sur un phénomène, un objet qui n'a pas son pareil. Hein, et souvent, on dit, quand on critique Wikipédia, bon, je me regarde, je me critique, je me compare, ça va mieux. On est sur quelque chose qui propose un nombre 60 fois plus d'articles que l'Encyclopédia Universalis, notamment en français. Et alors, à l'époque où j'ai fait ça, Annie Ernaux venait d'avoir le prix Nobel de littérature. Et Annie Ernaux a eu son article dans Wikipédia depuis très très longtemps, alors que dans l'Encyclopédia Universalis, par exemple, non. Alors, ce n'était pas la même chose pour nos trois prix Nobel de physique, là, mais les choses a été rédigée assez rapidement. Mais il y en a un qui a été rédigé par un professeur de littérature française, et l'autre, on ne sait pas forcément par qui, va-t-on le dire, donc est-ce que c'est équivalent? On ne sait pas. Allez. Et puis, donc, Wikipédia, c'est un article, celui-là, enfin, il est semi-fermé. Il y a eu un petit problème de. Alors, là, j'ai. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est finalement Wikipédia? C'est aussi quelque chose qui a un projet, on va dire, sur la connaissance, qui est pour le coup très très clair. C'est plusieurs choses. Hein, ce n'est pas qu'une encyclopédie, ce n'est pas qu'un dictionnaire. Ce n'est pas qu'un répertoire d'informations, mais ce qui est commun à tous ces éléments-là, c'est que on a des règles et qu'on ne mettra sur cette base de connaissances que des choses qui ont été prouvées, qui ont été définies, qui ont été vérifiées. Et donc, on a derrière une ambition de présenter hein, les choses et de définir la vérité, avec évidemment des questions qui intéressent évidemment les chercheurs. C'est comment on dit ce que c'est un savoir, comment on dit ce que c'est une opinion, comment on dit ce que c'est une croyance. Le débat scientifique, si vous n'êtes pas sans savoir que c'est un débat qui peut être très violent et qui, le but de notamment de la démarche scientifique, c'est de trancher des débats, c'est-à-dire des hypothèses ou des théories qui sont parfois contradictoires, en tout cas concurrentes, et donc qu'il n'y a pas forcément une vérité qui émerge. Le but de la démarche scientifique, en partie, c'est de faire apparaître un consensus qui est traité comme la vérité jusqu'à preuve du contraire. Et comment on fait pour présenter tout ça sur une encyclopédie ou sur un site en ligne? Et comment on définit des points de vue légitimes, etc. Bon, tout ça, c'est des rappels qui se posent évidemment à Wikipédia, qui se posent à toutes les publications, bien sûr. Mais c'est des contenus qui sont différents, une organisation qui est différente, et surtout une popularité qui est évidemment inégalée, qui fait que c'est devenu une institution, moi ce que je l'appellerais une institution, qui est interrogée et qui visiblement doit rendre des comptes. C'est-à-dire qu'on va dire à Wikipédia, tu ne traites pas de ça, devrais mieux traiter de ça, ou c'est pas comme ça qu'on fait traiter, ou j'ai le droit, parce que je représente une opinion, d'accéder à cette plateforme et de présenter mon opinion. Et donc on va faire intervenir des règles qui sont des règles externes au projet, pour entrer dans le projet. Donc finalement, qu'est-ce que ça pose tout ça, toutes ces questions-là? C'est des questions très très courantes pour les Wikipédiens qui sont là et pour tous les Wikipédiens en général. C'est qu'est-ce que c'est construire une encyclopédie ou un objet d'information et de connaissances, de le faire en ligne, donc de manière visible, et de le faire ouverte, c'est-à-dire a priori, on n'empêche personne de venir le faire. Donc, qu'est-ce que c'est que avoir un article? Qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui mérite d'avoir un article? Qu'est-ce qui a droit à un article? Est-ce qu'il y a des liens entre des critères autres de la science, par exemple, et les critères d'avoir sur Wikipédia? Est-ce que c'est différent? Et qui décide de ça? Alors, pourquoi je suis bloqué? Et puis, il y a des choses aussi qui sont très intéressantes en théorie de l'organisation, et c'est qui sont les éléments qui permettent de proposer du contenu? Est-ce que moi, en tant que chercheur ou spécialiste d'un sujet, j'ai une position qui me permet d'avoir un argument, ce qu'on appelle d'autorité, pour proposer ma connaissance? Est-ce qu'un individu dont on parle a le droit de dire, mais moi, c'est moi? Vous parlez de moi, je sais que. Ça veut dire quoi une source? Hein, mes enfants, ils disent Oh, j'ai regardé, je l'ai vu sur Internet. OK, donc est-ce que c'est mieux de dire j'ai vu sur Wikipédia? C'est pas comme ça que Wikipédia fonctionne. Wikipédia pose la question de c'est quoi une source? C'est quoi une information vérifiable? C'est quoi une information qui a du sens? Et évidemment, il y a aussi. Le fonctionnement du projet. Et donc, ce qui est intéressant et ce qui va nous intéresser dans l'enquête, c'est ces éléments-là. C'est comment, quand on contribue ou quand on lit, qu'est-ce qu'on regarde? La position, la source ou la connaissance des règles ou évidemment une négociation entre ces éléments-là qui construit la connaissance. Donc, les règles. On a vu que ces règles-là, les règles des personnes célèbres, peuvent être à des moments ou un autre. Remise en question parce qu'elle empêche des règles qui sont ou des objectifs qui sont supérieurs. Donc, je reviens sur les personnes célèbres. C'est pas forcément la faute de Wikipédia s'il n'y a pas de femmes célèbres dans Wikipédia. C'est peut être aussi la faute de la société qui n'a pas fourni les sources qui sont nécessaires dans les règles de Wikipédia pour avoir un article sur Wikipédia ou d'avoir son article ou l'article de la personne sur Wikipédia. Donc, est-ce qu'il faut changer les règles de la société? Est-ce qu'il faut que Wikipédia fasse évoluer ses règles? Et c'est juste pour les femmes, c'est dans des règles plus générales pour répondre à des demandes qui sont aussi des demandes de la société. Il n'y a pas assez de femmes sur Wikipédia, etc. C'est toutes ces questions-là qui se posent en permanence dans l'interprétation par les éditeurs de l'encyclopédie de on va dire, leur travail. Alors, c'est pas un travail au sens travail rémunéré, mais dans ce qu'ils font tous les jours, dans les actions du quotidien. L'autre point qui est très intéressant aussi quand on s'intéresse à une organisation, donc on a des règles, on a aussi des rôles. des rôles qui sont des rôles humains, et puis de plus en plus des rôles algorithmiques qui surveillent, vérifient, aident aussi au travail et des éditeurs, donc ceux qui contribuent, et des gens qui sont chargés d'organiser ce bazar et qui doivent vérifier les contributions, qui doivent vérifier que les règles sont bien en place pour que le projet reste cohérent. C'est aussi un projet qui est extrêmement compliqué, alors aujourd'hui de plus en plus, mais entre des espaces qui sont très nombreux et où tous ces éléments-là sont tout le temps discutés. C'est-à-dire l'article, c'est la base, c'est l'endroit où on se rencontre et on discute d'un contenu. Mais l'article, en fait, il y a la partie modification, on peut suivre les modifications, qui m'a modifié, et la discussion de l'article, où les gens vont discuter de ces modifications ou d'autres choses. Le projet, qui n'est pas forcément connu par les utilisateurs, par les lecteurs, mais qui est présent sur tous les Wikipédias, donc toutes les pages de la communauté, qui sont accessibles, hein, on peut les voir, mais on n'y va pas forcément. Et la fondation qui gère la plateforme et donc qui a un impact sur la politique de publication parce que c'est elle qui dit comment on publie, quels sont les outils qu'on a, comment on peut construire des liens, comment on peut organiser toute cette connaissance, même si c'est toujours en négociation avec la communauté. Donc, pour résumer un peu notre contexte, donc, si Wikipédia est utilisé par personne, enfin lu par personne, évidemment, ça ne serait pas un souci. Donc, c'est bien parce que c'est un site qui est visible. Finalement, c'est le succès de Wikipédia qui fait que Wikipédia est interrogé, critiqué, qu'on en attend beaucoup finalement, hein, parce que c'est devenu un site de référence et donc, comme site de référence, eh ben, il a un impact sur l'opinion, sur la société. Du coup, on va en dire, c'est un enjeu pour les contributeurs. C'est un enjeu parce que quand on contribue, on préfère contribuer à un endroit où on sera lu, où c'est intéressant d'être, hein. Les chercheurs préfèrent publier dans des revues classées ou visibles plutôt que dans des revues moins classées ou moins visibles. Il y a aussi un effet comme ça dans Wikipédia. Et donc, les questions qui s'entremêlent toujours, c'est quelle information est présente, pourquoi cette information est présente et comment on peut l'utiliser. Ça, c'est plutôt le côté lecteur. Et comment cette information est produite, comment fonctionne Wikipédia, c'est pourquoi cette information est présente. Et ça, c'est plutôt le côté contributeur. Mais vous voyez bien, enfin, j'espère que ma présentation explique bien que pour nous, c'est deux choses qui sont intimement liées. Même si ce n'est pas forcément des populations qui se parlent, il y a toujours des effets de l'un à l'autre et que la politique de Wikipédia, les questions autour de Wikipédia, les discussions qu'il peut y avoir dans la communauté, elles sont toujours dans ce contexte-là. C'est pour ça que ça nous a paru assez intéressant de poser cette question-là de qu'est-ce que c'est que construire Wikipédia? Et donc de revenir hein, sur ce que je disais, sur un système sociotechnique, comment il fonctionne pour les individus, quels sont les enjeux qu'il y a derrière ce système-là pour les gens qui participent, comment eux les perçoivent, en identifiant bien cet aspect ou cette fonction ou ce travail de lecteur, qu'est-ce que ça veut dire lire ou utiliser Wikipédia? Et le travail de contributeur, ça veut dire quoi? Participer à la production de connaissances ou à l'organisation de cette connaissance, hein, qui n'est pas la même chose, c'est-à-dire discuter des règles ou réfléchir aux règles. Alors, il y a aussi plusieurs manières, et là on rentre un petit peu dans la technique, dans la deuxième partie, si je ne vous ai pas perdu, hein, comment on peut faire ça? Quand on a ces questions-là, comment on peut étudier Wikipédia? Alors, il faut savoir que la plupart des recherches scientifiques qui se font sur ce site-là, c'est des questions sur la construction de la connaissance. Et évidemment, c'est des recherches qui utilisent le répertoire, c'est-à-dire l'ensemble des données qui sont mises à disposition. Faut pas oublier que ben, quelque chose qui est ouvert, c'est aussi quelque chose auquel qu'on peut utiliser, soit pour entraîner un algorithme, un IA qui fait de la qui écrit des textes, soit pour faire des tests de traduction d'une langue à l'autre, soit pour faire de la reconnaissance de langue ou de texte ou d'écriture, etc. Il y a tout ça. Il y a aussi beaucoup de recherches sur les parcours de lecture, sur les processus de coopération, d'accord? Mais toutes ces recherches-là, elles sont la plupart du temps faites par fouille de données. C'est-à-dire qu'on va regarder les traces qu'ont laissées les acteurs, et on va analyser ces traces dans le temps pour déduire eh bien, des évolutions de l'interaction, des questions comment on construit un article sans forcément se voir, hein, d'équipe virtuelle, etc., qui sont très intéressantes, mais qui montrent bien les actions. Hein, c'est-à-dire, c'est extrêmement pertinent, mais finalement, peu les intentions. Les questions de pourquoi on fait ça, comment on utilise. Et même sur les parcours de lecture, on constate que des gens parcourent, mais on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils en ont retenu, etc. Et donc, évidemment, l'autre grande manière d'enquêter, pour avoir une représentation, un peu forte ou variée des différentes attitudes et derrière un parcours, c'est de le faire par questionnaire. Et ça c'est intéressant, mais ce que je disais tout en introduction de cette présentation, c'est intéressant à condition qu'on comprenne bien ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'une enquête par questionnaire, c'est-à-dire là où on va faire une enquête statistique avec un questionnaire qui va être fermé, ce qu'on a fait, une enquête, ce qu'on appelle quantitative, c'est forcément une enquête où le but, c'est de tester des hypothèses. C'est-à-dire qu'on a des variables qui vont être expliquées. Devenir un gros contributeur, devenir administrateur, trouver que les règles en Wikipédia sont bonnes, et des variables explicatives qui peuvent être l'ancienneté du contributeur ou le fait d'être un homme, une femme. Par exemple, une variable expliquée, celle qu'on va tester, c'est est-ce que on estime que l'atmosphère dans les pages de discussion est bonne, accueillante ou pas? Et on aura comme variable explicative un certain nombre de données socio-économiques. De la même manière, on va tester des choses sur, pour le lecteur, sur est-ce que les articles de Wikipédia sont clairs ou sont trop longs ou sont bien faits. Et on va essayer de voir si ça dépend, ben, si vous êtes un étudiant, un lycéen, ou si ça a d'autres, ou si c'est dans le cadre du travail, ou si c'est dans le cadre du loisir. Comment on fait ça? Donc vous voyez bien que c'est quelque chose qui permet d'atteindre les utilisateurs et permet de poser des questions sur leurs intentions, leur compréhension de Wikipédia. Donc des choses qui sont très complémentaires aux traces, qui peuvent être éventuellement plus compliquées, mais qui demandent à accéder à ces utilisateurs. L'avantage des traces et de l'ouverture de Wikipédia, c'est que finalement, on peut le faire sans demander rien à personne, ni à ses utilisateurs. Et c'est une recherche qui est relativement facile sur l'accès aux données. Après, c'est l'enquête par questionnaire, si ça permet d'accéder à l'utilisateur, ça pose plein d'autres questions. Par exemple, des questions de représentativité. Est-ce qu'on a, en faisant une enquête par questionnaire, on peut dire les Wikipédiens sont où 50% des lecteurs sont des femmes de Wikipédia, ou 30% des contributeurs sont des femmes. Pour ça, il faut avoir être sûr de la représentativité, de savoir ce que c'est des Wikipédias, parmi une population, qui est la population de base. Donc, il faut être sûr d'avoir une représentativité de la population. Typiquement, si on voulait, on réfléchit là avec la Wikimédia française de faire une enquête sur l'usage de Wikipédia en France, il va falloir qu'on interroge les Français, ou peut-être les internautes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, sur leurs usages du Wikipédia. Ça, c'est évidemment le plus solide statistiquement pour qualifier des populations, donc les utilisateurs de Wikipédia parmi les Français. Ça limite aussi des biais d'autosélection dont je vais reparler, c'est-à-dire que quand on demande aux gens répondez à un questionnaire, Il n'y a que ceux qui ont envie qui répondent. Alors vous me direz dans une enquête sur les populations aussi, mais quand même, on essaye d'avoir une représentativité de toutes les personnes. Là, quand on enquête en ligne, vous verrez bah, qui répond qui, puis on regarde, en fait, on lance un filet, puis on regarde qui va répondre. Mais pourquoi on n'a pas choisi ça? Parce que si on veut enquêter les Wikipédiens et réfléchir en même temps aux lecteurs et aux contributeurs, bah, c'est compliqué. Comprenez, c'est très coûteux. Donc j'ai fait un petit calcul là. Hein. Si on a 1% des lecteurs de Wikipédia qui sont des contributeurs, eh ben, il aurait fallu enquêter en gros 20 000 personnes en France pour espérer avoir 200 contributeurs. En disant que tous les Français utilisent Wikipédia, ou en disant tous les internautes. Donc on aurait une population représentative des internautes en France, eh ben, il aurait fallu interroger 200 000 personnes pour espérer avoir 200 contributeurs qui répondent sur leurs intentions et sur leurs usages, etc. C'est compliqué, c'est cher, c'est très long. Donc, il y a toujours on va dire, un trade-off, je ne sais pas comment on dit, ben, un choix à faire entre ben, avoir cette idée de partir d'une grande population, savoir que ben, dans cette grande population, on n'aura qu'une sous-population un compromis, merci Nicolas, c'est terrible quand même. Cette sous-population qui va nous intéresser, mais on en a besoin de savoir quelle taille elle fait pour poser des questions qui nous intéressent vraiment. Donc, et puis, le gros problème sur Wikipédia, c'est qu'il y a très peu de Wikipédia qui sont monopays. Le suédois n'est pas monopays, parce qu'il y a des Suédois en Finlande et un peu partout dans le monde. On a ce problème en général. Donc, ce n'est pas parce qu'on va enquêter sur une population d'un pays qu'on va pouvoir dire des choses sur le Wikipédia ou la langue de ce pays. Et donc ça, c'est aussi une limitation. Quand on s'intéresse, bah, comment fonctionne Wikipédia? Qui accède à cet espace-là? Hein, si on a une rentrée par l'espace ou par la tâche, eh bien, il faut basculer et aller sur l'espace où ça se passe, par exemple Wikipédia en français, et puis interroger les gens qui l'utilisent ou qui contribuent. Et donc, forcément, eh ben, on est obligé de rentrer par la tâche, par l'espace, pour trouver ces gens-là. Donc, l'autre solution, c'est ce que je disais, c'est d'enquêter sur une entrée qui va être définie et qu'il faut définir quand on fait ce questionnaire. Ça, c'est un premier vraiment conseil que je vous donne. Enfin, vous verrez qu'on a fait plein d'erreurs dans ce questionnaire. Et on en fait toujours quand on fait des enquêtes et des questionnaires. Si c'était à refaire, on ferait des choses différentes. Mais j'espère que si des gens se lancent dans l'aventure, eh bien, ils ne referont pas forcément toutes les erreurs qu'on a faites. Ils en feront peut-être d'autres. Mais voilà, il faut. Donc il faut définir, ça on l'a fait très bien. On savait qu'on voulait enquêter les électeurs et les contributeurs, puisque ça faisait 2011-2015, et donc c'était cette nouvelle enquête. Et donc comme ça, on avait nos populations d'intérêt. En plus, comme on est sur Wikipédia, on est par définition en ligne, et donc on savait qu'on avait une population qui était grande et qu'on pouvait enquêter finalement, autant de gens pouvaient répondre, ce n'était pas un problème de taille. Mais il est très clair que on a des biais d'autosélection, c'est-à-dire n'ont répondu que ceux qui étaient intéressés, qui avaient le temps, qui avaient l'accès technique, etc., pour répondre à notre questionnaire. Et puis, eh ben, il faut multiplier les questionnaires. À partir du moment où vous enquêtez dans Wikipédia, vous allez devoir poser des questions différentes aux lecteurs et aux contributeurs, si vous le souhaitez, hein. Toutes les personnes qui vont aller sur votre site, ne seront pas contributeurs, les autres ne seront pas lecteurs. Tout le monde doit trouver, des questions qui les intéressent. Et puis, donc, c'est des sous-questionnaires. Et puis, si vous faites plusieurs Wikipédia, plusieurs langues, vous allez devoir aussi passer par une traduction. Et puis, à partir du moment où vous entrez par la plateforme, eh bien, forcément, vous devez aussi rentrer par les règles de la plateforme. C'est-à-dire que, eh bien, on ne peut pas faire abstraction de la communauté Wikipédia. Alors, je dis ça peut paraître bizarre, ça peut paraître évident, mais un chercheur peut avoir ce comportement un peu égoïste de se dire ma recherche est importante, c'est normal que je la conduise, et finalement, la société doit me permettre de la conduire. Oui, mais dans les règles que la société a fixées ou dans les règles que l'organisation a fixées. Et Wikipédia est géré par la Wikimedia Foundation, qui organise un certain nombre de choses, notamment par la recherche qui est faite sur cet objet et ce projet en général. Donc il y a un certain nombre de choses, et vous regarderez le site de la partie recherche, qui sont définies, qui sont faites. Il ne faut pas refaire la même chose. Vous n'allez pas embêter des gens avec trois questionnaires qui sont identiques. Des choses qui sont souvent de bon sens, mais qu'on a tendance à oublier quand on construit son questionnaire. Et donc, quand on construit une enquête dans Wikipédia, je pense qu'il faut bien réfléchir au périmètre, à l'environnement et à la réalisation de cette enquête. Ce que je disais, ça, c'est des recommandations qui. Alors, je ne dirais pas où on. Ça, si je dirais qu'on a quand même ça, on le savait, hein, mais pensez à ça, c'est que vous voulez enquêter Wikipédia, ça n'existe pas. En fait, on enquête des projets qui auront éventuellement des manières de faire qui vont être différentes, dans un environnement technique qui est le même, mais chaque langue a son projet. Donc, quelle langue vous voulez enquêter? Est-ce que vous voulez enquêter le projet ou des exemples de la gestion interne? Hein, il y a des espaces de discussion, des espaces de collaboration. Est-ce que c'est ça qu'on veut enquêter? Est-ce qu'on veut s'interroger au projet en général? Ou est-ce qu'on veut aller juste sur la communauté? Alors, cette dichotomie-là, elle est toujours présente parce que, on a l'impression que la plateforme, c'est la même, c'est vrai. Les outils et les interfaces sont similaires, c'est vrai. J'ai vu des enquêtes qui étaient faites en anglais sur tout Wikipédia. Là, ça veut dire qu'en fait, on ne s'intéresse qu'aux gens qui parlent anglais, même sur le Wikipédia français. Est-ce que c'est ça qu'on veut? En tout cas, il faut être conscient de tous ces biais-là et de ces objectifs. Donc, il faut répondre aux questions là. Enquêter Wikipédia, c'est enquêter un à plusieurs projets. Je ne parle même pas des projets, on va dire, autour de Wikipédia, Wikicommons, Wikidictionary, Wikiuniversity, qui pourraient être aussi rajoutés là-dedans. Donc, il y a en fait une espèce de tableau projet langue. Définir les populations. J'y reviendrai, mais est-ce que vous voulez enquêter l'ensemble des gens qui vont sur Wikipédia? Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous prenez en compte cette dichotomie entre lecteur et contributeur? Et comment vous la faites? Comment vous accédez, toujours pareil, à ces gens qui vont vous répondre, en fait. Et donc, il faut s'intéresser aussi aux interfaces pour accéder aux personnes. Et principalement, c'est ce qu'on appelle la bannière. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait ce genre d'enquête, quand vous allez sur Wikipédia, qu'on vous demande, par exemple, d'aider Wikipédia, de donner de l'argent, il y a une bannière qui s'affiche. Mais il y en a plein d'autres. Notamment sur les contributeurs, ils en voient beaucoup plus. On leur propose de contribuer sur pas mal de choses. Ben ça, c'est une annonce qui est contrôlée et par la langue et par le projet en général. Et donc, ben, il faut, si on veut vraiment questionner les Wikipédias, avoir accès à cette bannière-là. Donc, ça veut dire négocier. Ça veut dire négocier avec le projet, donc une fois de plus, hein, le Wikipédia en français. Ou le Wikipédia en général, le droit d'accéder à ces populations que vous avez définies. Et négocier, ça veut dire s'intégrer dans le dialogue qui a lieu tous les jours entre le projet, les acteurs, la recherche. La recherche qui peut être globale, qui peut être locale, et en tout cas qui est organisée. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris, c'est que dans Wikipédia, tout est organisé. Même si on n'en est pas forcément conscient, il y a des lieux où on va mettre en place, où on va discuter, où on va pouvoir se référer. Et que la première travail, c'est de trouver ces lieux. Hein? Et il ne faut pas faire comme les étudiants qui disent « Ah ben, il n'y a rien, j'ai rien trouvé. » Non, non, c'est juste que vous avez mal cherché. Les recherches, les projets de recherche, ça s'annonce. Si vous faites un questionnaire, comme on a fait, on ne peut pas faire des questionnaires qui nous plaisent à nous, chercheurs, seulement. Il faut expliquer en quoi ce questionnaire va être utile à Wikipédia. C'est des choses qui paraissent naturelles quand on enquête, quand on va voir une organisation, on demande l'autorisation à cette organisation de faire une enquête et on doit la convaincre que ce qu'on va faire servira ou lui servira. Ben, ce n'est pas parce que c'est ouvert, ce n'est pas parce que l'information est accessible que ce n'est pas la même chose. Hein, Wikipédia, c'est une organisation de gens qui font des choses ensemble et donc il y a ces règles-là à respecter. Il faut bien penser, alors pour les chercheurs français, c'est pas très gênant, mais on doit faire retour. C'est important moralement, hein, puisqu'on a demandé aux gens de nous répondre, mais aussi parce que ça fait partie des règles qui sont demandées aux chercheurs. Et donc, présenter la quête, assurer la diffusion des données et des résultats, et être compatible avec les grands objectifs ou les grandes questions que je vous ai présentées de manière assez grande, mais qui sont encore plus structurées par la Wikimedia Foundation. Donc, le travail que je fais aujourd'hui, là, de présenter ça, de présenter l'enquête, ça fait partie des choses normales quand on fait une enquête dans Wikipédia. Ensuite, il faut évidemment définir un questionnaire. C'est souvent là qu'on est le plus à l'aise. Mais attention, on a aussi tendance, quand on fait un questionnaire, à vouloir tout mettre, toutes nos connaissances, à poser des questions de la manière dont nous, chercheurs, on comprend le problème, mais qui n'est pas forcément la manière dont les utilisateurs comprennent. Donc faites attention au vocabulaire, faites très attention au vocabulaire, notamment avec les contributeurs sur les usages. C'est quoi un contributeur? C'est quoi la communauté? C'est quoi un éditeur? C'est quoi un gros contributeur? Toutes ces questions-là, elles ont un sens dans Wikipédia et qu'il faut le traduire dans votre questionnaire. Et puis, quelque chose là où quelque chose qu'on avait énormément sous-estimé, c'est par exemple le temps de traduction. Temps de traduction d'une langue à l'autre, puisqu'on a fait le questionnaire en 8 langues. La traduction d'une langue à l'autre, c'est traduire, vérifier la traduction, voir avec la communauté si tout est bon, etc. Ça prend beaucoup de temps. Faut faire attention de respecter la loi. Il est très intéressant dans Wikipédia, par exemple, et on l'a fait, de demander aux contributeurs leurs identifiants de contributeurs, ce qui permet de relever des données qu'on a collectées avec ce qu'ils font en ligne. Mais évidemment, c'est tout ça, ce sont des données personnelles, comme l'adresse IP, comme le courriel si on veut recontacter les interviewés. On a 5 000 personnes sur les 10 000 qui ont fini le questionnaire qui nous ont dit oui, on veut bien être recontacté. Évidemment, c'est des choses qu'on ne peut pas diffuser. Et puis, il faut respecter la loi française aussi. Donc, la Wikimedia Foundation propose des outils que nous, on n'a pas utilisés, qu'on aurait sans doute dû utiliser, mais qui ne respectent pas forcément bien les RGPD en termes de localisation des données, de protection des données. Donc, on n'était pas sûr. Et on n'a pas aussi trouvé tout de suite que ces outils étaient disponibles. Et il faut tester. On a testé le questionnaire auprès d'utilisateurs, des contributeurs, sans doute pas assez, sans doute pas assez dans toutes les langues. Il y a certaines langues qui sont difficiles à contacter. Par exemple, les Allemands, on n'a pas le droit de trop les contacter, la communauté, pour leur demander de tester le questionnaire. C'est compliqué. Donc, il y a plein de sous-communautés qui font que le test est parfois difficile. Ça prend du temps. Nous, on ne l'a pas fait assez, pourtant je le savais qu'il fallait le faire, on savait tous qu'il fallait le faire. Donc voilà, cette étape-là, elle est toujours négligée et c'est dommage parce que, y a toujours des erreurs, il y a toujours des choses qui pourraient être plus claires. De toute façon, vous serez en retard sur votre calendrier, donc c'est comme un projet informatique. La seule chose qui est sûre, c'est que ça prendra plus de temps que prévu. Acceptez-le dès le départ et c'est pas grave. Je veux dire, s'il faut prendre plus de temps pour tester, il faut le prendre. Et puis, finalement, un point qu'on a aussi négligé, c'est donc on a questionné 8 langues. Vous les trouverez sur le site, mais il y avait en gros les plus gros Wikipédia, sauf le japonais, et certains plus petits, comme le turc ou l'ukrainien. Mais faites quelques calculs simples. En gros, le français, c'est 5 000 visites par minute. Et donc, si vous avez une bannière, même si vous avez que la moitié des gens qui y vont, ou même 10%, c'est 500 personnes qui vont aller sur votre site en même temps. Tous les sites ne tiennent pas cette charge-là. Donc, quand vous faites un questionnaire, vérifiez que votre site tient la charge. Le faire Wikipédia, c'est 5% en fait, du trafic à peu près. L'anglais, c'est 50%. Donc, 50 000 visites par minute, c'est difficile à tenir. Même si vous faites 5% en fait, du Wikipédia, c'est... C'est difficile à tenir. Quelque chose dont on était conscient aussi, mais qu'on n'a sans doute pas assez pris en compte dans notre questionnaire, dans la structure du questionnaire, c'est qu'aujourd'hui, Wikipédia, c'est sur le téléphone. Hein, c'est plus trop sur l'ordinateur. Donc les écrans sont petits. Les gens font ça dans le métro ou dans le bus. Donc ils n'ont pas forcément beaucoup de temps. Ils scrollent et tout. Faut y penser. Et puis, on a eu des problèmes techniques. On avait un serveur qui tenait la charge sur OVH, mais qui dont le temps de session était de 10 minutes. Donc, au bout de 10 minutes, si vous ne répondiez plus au questionnaire, ben, vous perdiez votre session. Alors, c'est un peu bêta pour les gens qui ben, sont au téléphone, qui arrêtent, qui vont reprendre plus tard, ou ceux qui sont sur ordinateur, qui ont un mail à traiter et qui perdent le questionnaire et qui ne sont pas contents parce qu'ils doivent recommencer à zéro. Et ça aussi, ça a été des choses qui nous ont un peu plombés. Et enfin, ce que je disais, c'est que quand on accède au questionnaire, il me reste deux transparents. Je suis désolé, j'étais un plus long que prévu. Eh ben, il faut trouver comment on fait pour afficher les barrières. Ça, c'est ce qui nous a pris le plus de temps. Mais c'est extrêmement bien fait au sens où vous pouvez vraiment choisir votre population en termes de langue ou en termes de pays ou en termes de pourcentage de gens qui vont voir la bannière. Est-ce que vous interrogez tout le monde, que les gens qui sont logués? C'est toutes ces choses-là, vous pouvez le faire, donc vous pouvez vraiment de manière très précise identifier la population cible. Et c'est très ouvert, c'est-à-dire que on a demandé l'autorisation, on l'a eu, donc d'afficher la bannière sur 8 langues en plantant un moment notre serveur, donc on a dû recommencer, etc. C'est très ouvert, même si les gens n'étaient pas toujours très contents, mais ça prend du temps. Avoir la bannière, bien expliquer ce qu'on veut faire, écrire la bannière, savoir qui doit nous aider à écrire la bannière. Et donc, il faut mieux avoir des gens qui nous aident vraiment à bien comprendre comment ça marche. Donc, ben, merci à certaines personnes qui étaient là, notamment Pierre-Yves, Nicolas, qui nous ont aidés à des moments à débloquer des situations. Et puis, ben, sachez-le, nous, ça ne nous gênait pas. On avait choisi ça, d'avoir des questionnaires longs et ce n'était pas très grave si on perdait des gens en route. Mais en gros, il y a 200 personnes qui ont ouvert notre questionnaire, qui ont lu le truc en disant on va collecter des informations sur vous. Il y en a 100 000, en fait, la moitié qui ne sont pas allés plus loin. Et 100 000 ont commencé et finalement, qu'il n'y en a que 10 000 qui l'ont fini, notamment à cause des problèmes techniques qu'on a eus. Ça, on en est sûr. Mais aussi parce que c'était un questionnaire très long. Un Wikipédia, c'est quelqu'un qui est volontaire. Donc c'est quelqu'un qui est là pour aider Wikipédia, qui a de l'intérêt pour Wikipédia. Et les gens qui sont derrière tous ces outils de gestion sont des gens qui essayent de faire au mieux, mais ils prennent des vacances, mais ils sont débordés. Et vous n'êtes jamais leur priorité. Et ça, c'est normal. Donc il faut être patient, il faut essayer de trouver des gens qui s'intéressent un peu plus. Et il faut être prêt à négocier ou à prendre ce temps, et à perdre du temps, et à être en retard. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Et finalement, et ça sera mon dernier transparent, s'il veut bien passer, voilà. Je vous rappelle que les données doivent être diffusées, les données anonymisées. Faites très attention à ça. En 2015, on avait oublié d'enlever une colonne et il y a un Wikipédia qui nous a dit, mais en fait, cette donnée-là, elle permet de nous identifier. Donc, on a dû l'effacer, remettre le bon jeu de données. Vous avez le droit à l'erreur. Vous avez même droit à l'erreur, 2 fois à l'erreur, mais pas 10 fois. Donc faites attention, délivrez ce que vous avez promis. Et un autre conseil, c'est penser au data paper. On en a fait un. C'est un bon moyen d'expliquer et de diffuser vos données et pour les chercheurs d'être cités sur le travail que vous avez fait de collecte de données, qui est un travail important. Donc, informer les répondants. Publier les synthèses importantes. Vous voyez, la première chose que Pierre-Yves a dit, c'est on va peut-être avoir des données. Ben non, on n'en a pas parce qu'on n'a pas commencé encore à vraiment les traiter. Pour l'instant, on n'a fait que du nettoyage, que de la mise en place, que de la diffusion des données. Donc, les données sont disponibles, vous pouvez accéder à ce qu'on a collecté, mais on les a pas encore traitées. Et on fera des conférences en public pour expliquer ce qu'on a trouvé, mais pas tout de suite. Voilà, je suis désolé, je vois les gens qui s'en vont. Et une fois de plus, on ne vous dira pas les Wikipédiens sont. Par contre, on vous dira les femmes Wikipédiennes qui contribuent ont autant de chances que les hommes de devenir administratrices ou pas. Ça, c'est des choses qu'on sera capable de faire. Donc voilà, pour résumer, on a commencé en septembre 2022 et on a fini notre enquête en juin, fin, en mi-juillet 2023, et les données voilà, qui sont disponibles en novembre 2023. Donc il faut un an entre le moment où on commence un projet et le moment où on va pouvoir utiliser ces données. Et j'en ai fini, si je n'ai pas fatigué tout le monde. si vous avez des questions. Donc, je vais prendre quelques minutes après 14 heures.
Merci beaucoup, Nicolas. Donc, j'ai mis dans le chat le lien vers le Data Paper.
Qui est, voilà, qui est disponible et qui peut être utilisé. Ouais.
Quelqu'un veut commencer par une question ou un commentaire ou une demande d'éclaircissement?
Non, personne, je vous ai tous épuisé.
Je peux faire un petit commentaire si vous voulez bien. Donc Hugo Lopez, Wikimédia en résidence à Toulouse, je fais souvent des ateliers de formation et j'avais oublié enfin j'avais oublié, j'avais organisé ma formation surtout sur les grandes règles, etc. Et les utilisateurs ont commencé à me poser des questions de rôle, notamment en termes, pas forcément les rôles formels, mais sur aussi le Il y a les rôles formels type administrateur qui les intéressent, mais aussi les rôles informels, ce qu'on appelle gentiment Wikignome, Wikifée, ce genre de choses. Et j'avais trouvé intéressant, donc je réagis, je ne sais plus quelle slide c'était, mais il y a une slide où vous faites le distinguo entre règles, rôles et pages, qui sont trois éléments structurants dans Wikipédia, avec donc l'article, la page de discussion, le projet, sa page de discussion, etc. Moi, j'appelle ça la gestion de projet. Les pages de discussion, en fait, je dis que c'est l'équivalent des emails, mais c'est aussi l'équivalent de la gestion de projet pour soit un article, soit un projet, soit le comportement d'un utilisateur, etc. Et j'ai récemment rajouté des slides sur le rôle des personnes, les rôles formels et informels, pour rajouter la dimension que les utilisateurs ou les éditeurs pouvaient contribuer sur des aspects très différents, sur les aspects qui les intéressaient. Donc, il n'y a pas de, justement, il n'y a pas de contrainte. On n'est pas obligé de venir en rédacteur d'articles et de contenu académique. On peut faire aussi autre chose que de la rédaction de contenu. Et ça, j'ai trouvé ça récemment intéressant en réagissant aux commentaires des apprenants. Et j'ai aussi une remarque que vous faites. On a le droit à l'erreur. J'avais oublié, ça fait des années que je suis sur Wikipédia, mais j'ai oublié ce terme. Et donc c'est toujours intéressant de voir des pairs qui expliquent Wikipédia. On a le droit à l'erreur une fois, deux fois, plusieurs fois, mais pas 10. Donc ça, c'est quelque chose que je retiens pour mes ateliers. Voilà.
Bon, alors oui, sur les rôles, bah, c'est une des choses qu'on va étudier en fait, hein, vous l'avez compris, parce qu'on a demandé à un certain nombre de choses aux gens, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans Wikipédia, qu'est-ce que vous faisiez au départ, et c'est quelque chose qui est assez intéressant, et en plus, on va avoir des traces de gens qui vont évoluer, donc on va être capable de collecter les actions des gens et voir si c'est en correspondance avec ce qu'ils ont dit. Et ça c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup sur ces questions d'usage de Wikipédia. Voilà, bon, mais c'est vrai que c'est un espace compliqué. Ouais, vas-y.
En termes de rôle, du coup, vous avez dans votre modèle, dans votre analyse, vous allez faire émerger des. Vous avez quel type de rôle
Alors,
qui va émerger?
y a des rôles qui existent dans la recherche, des gens qui sont plutôt sur la production de la connaissance, des gens qui sont plutôt sur l'organisation de l'article, des gens qui sont plutôt sur la maintenance. Donc, on essaierait de distinguer ça. Donc, ceux qui vérifient la grammaire, mais aussi qui s'assurent que l'article est cohérent et que les articles restent stables. Après, il y a des gens qui sont plutôt là pour... Les faits, c'est des gens qui sont plutôt là pour aider à résoudre les conflits ou organiser. C'est souvent des gens qui peuvent devenir administrateurs après, mais qui sont plus dans la négociation et dans la gestion des conflits. Plus après, tous les aspects plutôt techniques. Je pense aux gens qui développent les bots ou qui les maintiennent. Donc il y a, voilà, c'est un peu ces rôles-là. Des gens qui passent beaucoup de temps à discuter de la politique de Wikipédia, donc ils sont plutôt présents dans le bistrot que finalement dans la partie production de connaissances. Voilà, c'est des choses qui allient en même temps les objectifs et la tâche. Et donc, ce qui nous
Et les...
intéresse, c'est vraiment de les définir avec la tâche, voir ce qu'ils font, et puis de voir quel profil ils ont.
Donc, vous définissez des rôles en dur, en quelque sorte, dans votre étude, et vous rattachez les modifications à ces rôles. Ou est-ce que,
Oui, non, mais.
question un peu naïve, où est-ce que vous avez un système qui observe les modifications et qui après crée des clusters par analyse quantitative, crée des clusters comportementaux et après vous nommez ces rôles? Ça se fait dans quel sens?
C'est plutôt comme ça que ça se fait.
D'accord.
Soit, si on fait de l'analyse de traces, c'est comme ça qu'on va faire. Et donc, nous, derrière, on va pouvoir dire, oui, mais celui-là, c'est un homme de 30 ans, etc., ou quelqu'un qui est depuis tant de temps sur Wikipédia. Ou alors, là, on a interrogé les gens en leur demandant, qu'est-ce que vous aimez faire ou qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Et donc, là, on a défini un certain nombre de tâches. Et on va voir si donc vous le faites souvent, beaucoup, etc. Et on va voir si on peut aussi faire des clusters ou des profils de gens. Mais en général, oui, c'est la donnée c'est la donnée qui va faire
Qui va créer
les
les
rôles.
rôles, ou qui va
Ouais,
rattacher.
ouais, ouais, ouais.
Il me semble avoir. J'ai fait une table ronde il y a un mois, et il me semble qu'on avait discuté aussi du fait qu'il y a des parcours de Wikipédia. Du coup, on se retrouve, par exemple, de manière typique, au début, on est Wikignome, on fait des petites corrections de frappe, ou de structure, de choses comme ça, ou. Wikifait, c'est ce qui décore les articles. Et petit à petit, on rentre dans le dur, on va dans la discussion, on va dans les structurations de séries d'articles, les structurations de projets, etc. Et donc, en fait, je connais pas bien Marsouin, donc est-ce que vous arrivez à voir, à faire des distinguos de période, si vous voulez? Une personne, en fait, c'est pas un rôle unique, c'est plusieurs rôles avec des proportions diverses. J'ai le rôle de gnome, de responsable de projet, de Wikifait qui décore les articles, mais j'ai eu des périodes dans mon expérience de wikipédienne où j'étais plutôt de tel type, et puis plus tard j'étais plutôt d'un autre.
Alors ça, ça ne fait pas faire forcément partie de l'enquête, parce que ça sera plus des choses qu'on va définir sur de l'analyse de traces finalement. Hein. Est-ce que des gens font des choses, etc., d'une première manière. Mais ce qu'on avait fait avec une enquête, je ne sais plus si c'était celle de 2011, alors est-ce que c'est toujours vrai? C'est qu'on avait montré finalement que les gros contributeurs étaient gros contributeurs dès le début. Cette image de gens qui apprennent en fait ce qu'on appelle le peripheral learning. Hein, où on va observer, on va essayer des petites choses, et puis après on va essayer des plus grosses choses. C'est pas tout à fait vrai. En tout cas, ça ne se retrouvait pas dans les données qu'on avait. En fait, il y a des gens qui viennent pour contribuer, et qui vont contribuer, et qui vont se prendre au jeu. Ça peut. Alors après, ils peuvent progresser dans leur compréhension de l'organisation, des règles, des lois, des choses, mais ce n'est pas forcément des gens qui vont contribuer peu pour apprendre comment on contribue. En tout cas, c'est ce qu'on avait découvert en 2011. Alors là, on va utiliser une méthodologie un petit peu différente. Donc, on a toujours cette idée de demander aux gens qu'est-ce que vous faites. Mais ça, c'est la deuxième partie de l'enquête. En fait, on a interrogé des gens. Maintenant, on a notre base d'utilisateurs. Et je vous ai dit, il y en a 5 000 sur les 10 000 de la fin qui ont dit qu'ils étaient prêts à être recontactés. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Et donc, en fait, on va les réinterroger dans un an. On estime à peu près un an. Alors, ça fait déjà 6 mois qu'on les a interrogés, donc un an, ça va venir vite. Et on va leur demander ce qu'ils font aujourd'hui. Et là, on aura quelque chose. En plus, on aura les traces, etc. On aura une méthodologie qui sera beaucoup plus solide pour savoir, parce que les gens racontent des choses. Voilà, bah, Pierre, tu sais, les premiers jours déterminent le parcours. C'est ce qu'on avait montré en 2011. J'espère qu'ils nous citent. Mais voilà, c'est quelque chose en fait, dès les premiers jours, on avait fait aussi une petite étude avec un étudiant et un étudiant indien et un collègue d'ici, où on montrait qu'avec 50 edits, les 50 premiers edits, on pouvait déterminer si quelqu'un allait devenir un gros contributeur ou pas. Donc il y a toutes ces hypothèses-là. Donc ce que je disais sur notre méthode, c'est qu'on va réinterroger les mêmes personnes et on va voir, par exemple, si les justifications pour contribuer à Wikipédia évoluent. Si on dit la même chose, pourquoi on contribue? Ou si on a appris avec la communauté, des nouvelles raisons de contribuer, ou si on a découvert des nouvelles raisons de contribuer. Donc il y a toutes ces choses-là sur l'évolution qui sont assez difficiles à traiter, parce que faire un questionnaire en demandant aux gens, il y a 10 ans, pourquoi vous avez fait, c'est difficile. Donc là, on espère réinterroger les personnes une fois ou deux. Et ça, en fait, ce dataset, c'est que le premier de au moins deux datasets. Et comme ça, on va pouvoir suivre l'évolution des personnes et leur redemander des choses. Et comme si certains nous ont laissé leurs adresses, enfin leurs identifiants Wikipédia, on va pouvoir aussi vérifier ce qu'ils nous disent ou définir des rôles. Donc, on a quand même des choses qui sont un peu multi-outils. Mais derrière, on a des choses assez précises sur leurs utilisations culturelles. Alors, je remarque quand même qu'on parle beaucoup des contributeurs, parce que c'est souvent ce qui nous intéresse, tous nous qui utilisons étudiants wikipédiens ou qui sommes wikipédiens, mais il y a aussi tous les lecteurs. Et on a aussi interrogé les lecteurs sur leurs usages du Wikipédia, sur est-ce que Wikipédia était une source qui était acceptée dans leur métier ou par les études, dans leur profession de lycéen et de collégien. Et c'est pareil, eux, on va les réinterroger aussi dans 1 an, dans 2 ans, pour voir si sur leurs usages de Wikipédia ont évolué. Et je pense que ça va être intéressant, cette deuxième série de données.
Merci.
Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens on n'est plus très nombreux, mais qui sont en cours d'enquête ou qui veulent faire une enquête. Donc c'est une petite partie de ce que j'avais, des conseils que je peux donner, mais il ne faut pas hésiter si vous avez des conseils ou des idées à revenir vers nous, hein, vers moi ou vers Pierre-Yves pour rediriger vers nous. Il n'y a pas de souci. Et donc les données sont disponibles. Vous pouvez les utiliser, elles sont assez riches. N'hésitez pas, vous avez le droit. Si on les a mis en ligne, c'est que des gens ont le droit de les utiliser. Vous faites ce que vous voulez avec. Faites attention que ce n'est pas une population qui est représentative de rien du tout. Il faut essayer de trouver des liens entre des données plus que des surreprésentations de certains profils. Ouais.
Excusez-moi, les données, elles sont sous quelle licence? J'ai manqué l'information. Elles sont
Alors,
publiées sur une licence particulière ou...
elles sont publiées sur HAL et oui, elles sont publiées avec une licence particulière qui est. Diable. Enfin, non, le data paper est sur HAL et les données sont sur Nacala, qui est le site en fait où on publie.
Ma vraie question, c'est est-ce que les données sont explicitement sous licence libre?
CC BY SA 4.0.
Ok, parfait.
Ouais, on a fait attention à ça quand même.
Voilà,
Les
donc
données sont
c'est
CC.
bon, ça donne le feu vert à tous les chercheurs qui veulent réutiliser. Le
Tout à
feu vert
fait.
a priori.
Ah, tout à fait. C'est bien l'idée qu'on a. Alors, Nicolas, tu m'inquiètes là. Ah, ne marche pas.
Non, j'ai eu le même souci, il est lent, mais ça vient de HAL.
D'accord.
Depuis hier, c'est assez lent, le site. Donc, peut-être pour dire, oui, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Maintenant, je me suis plongé dans la gestion des bannières. Donc voilà, c'est très utile, ça peut être très utile pour faire des enquêtes. C'est encore peu utilisé, en tout cas en France. Il y a les Allemands là, qui sont en train de faire une enquête, les Chiliens. C'est surtout utilisé pour promouvoir des concours photo. Actuellement, vous avez le concours photo scientifique notamment. Et tout un tas d'autres bannières. Mais voilà. Par contre, il y a beaucoup de choses à savoir.
Pour les bannières, il y a des filtres, Pierre-Yves, pour cibler des utilisateurs ou des lecteurs particuliers. C'est quoi les filtres? Je m'en souviens plus.
C'est
Oui,
énorme.
on l'utilise de manière assez rudimentaire, assez simpliste. Et en fait, on peut aller très très loin. On peut, si j'ai envie de voir que les gros contributeurs de Wikipédia, on peut le faire. Les Allemands le font pour les débutants. Ils ont un gros souci. La communauté germanophone décline historiquement depuis le pic en 2008, contrairement à la communauté francophone. Donc ils mènent beaucoup d'actions pour améliorer le taux de rétention des nouveaux. Globalement, ça ne marche pas, hein, comme je l'ai rappelé, la fondation, pareil, hein, les gens partent dès le premier jour, donc c'est difficile de les retenir Et dans de la il y a
manière aussi rapide. Et globalement, les Allemands ne sont pas très accueillants. C'est la communauté la moins accueillante aux enquêtes. Par exemple, on n'a pas le droit d'envoyer dans le bistrot allemand le fait qu'on fait une enquête et qu'on aimerait bien avoir des retours ou des aides ou pour la traduction ou des conseils, etc. Ça, je n'ai pas dit aussi, mais quand on dit traduction, ce n'est pas juste traduire. Quand on demande, par exemple, le niveau d'études, eh ben, vous ne pouvez pas faire le niveau français, en fait, parce que ça n'existe pas, bac plus 2, ailleurs. Il y a plein de choses comme ça qui sont qui ou quand on demande quelle revue scientifique vous lisez ou qu'est-ce que vous lisez, eh ben c'est pareil. Il faut trouver des revues qui ont un sens dans la langue. Et quand vous pensez à la langue, vous devez penser à tous les utilisateurs de cette langue. Les germanophones, c'est pas que des Allemands. Il y a des Suisses.
Je ne sais pas si ça vous intéresse, Nicolas, il y a un article sur la Wikipédia anglaise, c'est les journaux des records. Donc, ça fait pour tous les pays, enfin pour la plupart des pays, les journaux du type New York Times, Guardians, El País, etc. Donc, c'est une source de référence dans chaque pays. Ça peut être intéressant pour vos études si.
Voilà.
C'est journalistique, par contre.
Ouais, faudrait que je retourne voir. Ouais. Non, mais les Autrichiens aussi, Nicolas, je sais. Je les ai exprimés. Il y a même des... Par exemple, dans l'enquête, là, quand on demandait d'où venaient les pays, ben, je me suis plongé, grâce à Wikipédia, dans les pays où l'allemand était la langue officielle, ou une langue officielle, ou le français. L'anglais, j'ai abandonné parce qu'il y en avait 45, mais dans la présentation, on les a mis en avant, enfin, en premier, etc. Ça, le Lime Survey permet de faire ça facilement. Donc c'est un gros travail d'enquêter plusieurs langues. C'est assez compliqué. Alors, je sais pas
Et
si, ouais, juste, je sais pas si on peut en parler ici, Pierre-Yves, mais l'idée aussi, quand je disais, ce serait peut-être de faire une enquête sur Wikipédia en France avec la Wikimedia Foundation. Donc on est en train de discuter, alors pas la Wikimedia Foundation, du coup la Wikimedia France, qui permettrait aussi de compléter ou de rebalancer, enfin rééquilibrer nos données. Mais évidemment, l'enquête serait beaucoup plus petite en termes de nombre de questions que ce qu'on a fait. Ce n'est pas du tout la même idée. Ce serait plutôt d'avoir une photographie de ces indicateurs. Donc, vous voyez, c'est des choses comme ça aussi qui. Avoir plusieurs jeux de données pour les comparer, c'est des choses qui sont intéressantes.
Pour les bannières, je reviens un petit peu là-dessus pour en profiter pour partager avec les gens qui sont là. En termes d'études, en termes de relance de communauté, si je me souviens bien, il y a la dimension, on peut cibler les utilisateurs par nombre d'édits, on peut cibler les utilisateurs par géographie. Il me semble qu'on peut cibler les utilisateurs par type de contenu. Il y a ça, Pierre-Yves, ou pas?
Oui, il n'y a que les
Des
Allemands
articles
qui l'ont
partis.
utilisé. Ils l'ont codé
Ah,
eux-mêmes
d'accord.
et c'est pas documenté. Donc c'est assez difficile,
D'accord.
mais oui, on peut indiquer une catégorie d'articles. À chaque fois, ces cas particuliers, c'est comme les régions françaises ou les Landes allemandes. Je ne sais pas si c'est fiable et hyper fiable. Bon, je sais que notamment la géolocalisation, voilà, ben, les adresses IP, pas forcément terrible. Même si ça s'est amélioré, on n'est plus à l'époque d'AOL où tout le monde transitait par Paris, enfin avait une IP parisienne.
Ouais, l'adresse IP, nous, on l'a utilisée au niveau France, enfin du pays-ville, pour identifier d'où les gens nous répondaient. Donc on a collecté l'adresse IP, et on l'a transformée en pays-ville, et vous verrez que dans le dataset, du coup, on a indiqué pays-ville. Mais on n'a pas mis plus que ça, parce qu'on ne va évidemment pas diffuser l'adresse IP des gens qui nous ont répondu.
Il n'y a plus
Savoir,
que. Pardon, dès qu'on a des bannières orientées recherche, il faut avoir l'autorisation de la cellule recherche, du département recherche de la Fondation, qui vérifie un peu les aspects légaux et tout ça, et qui donne quelques conseils, mais voilà, du coup, il faut s'y
Mais en
prendre à
fait,
l'avance.
il faut demander, on n'a pas obligé d'avoir un projet de recherche. Et en fait, il demande de dire, ben voilà, faites votre page recherche, expliquez, etc. Et après, ils donnent un go, mais en gros, si il n'y a pas de souci, ils donneront le go. Ils diront juste, voilà, faites attention, et puis assis à ça, etc. Mais c'est tout. Alors, on n'est pas obligé de demander formellement, de déposer formellement une demande.
Oui, vous gardez votre liberté académique. Je pense
Ouais.
qu'il faut contrôler l'usage du bandeau comme il s'affiche à tout le monde. Voilà, que ça dérape pas et que souvent les projets de recherche sont extérieurs, hein, au mouvement Wikimedia. Globalement, les bannières sont quand même très contrôlées, hein, de toute façon, même les autres, parce que voilà, c'est un peu des publicités, hein, donc ça embête un peu tout le monde.
Ah ouais. Et puis surtout aussi, ils sont très attentifs au fait que l'image de Wikipédia ne soit pas dégradée par votre enquête. Quelqu'un qui fait une enquête et puis qui a un serveur qui plante et ben les utilisateurs qui répondent se retournent contre la Wikimedia Foundation ou contre Wikipédia, même si c'est écrit partout dans l'enquête que c'est pas eux qui font. Et ça leur plaît pas trop. Voilà, ça, je connais des gens à qui c'est arrivé.
Ouais, je crois que ça nuit aussi. Enfin, les moteurs de recherche n'aiment pas trop.
Ouais.
Globalement, l'utilisation des bannières n'est pas très bien pour les moteurs de recherche. Pour le référencement, ça sent pas trop parce que Wikipédia est très bien référencé, mais globalement, on perd des points à l'utiliser. Mais bon, c'est vital pour les dons.
Voilà, donc voilà, faut faire attention de ne pas casser les choses. Même, on peut se faire gronder, ce qui est normal. Et on s'excuse.
OK.